Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, le monde. Aujourd'hui, édition du mercredi 30 avril 2014, en direct du studio 13 à Washington. Au micro, Bagassi Koura et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
Au sommaire, ce matin, des centaines de ressortissants de la RDC chassés du Congo-Brazzaville ont continué d'affluer jusqu'à hier à Kinshasa.
Au Beach Ngobila, le port de Kinshasa, la barge assurant la traversée du fleuve Congo a déversé hier plusieurs centaines de passagers. Ils débarquent avec leurs bagages et baluchons ou le peu qu'il leur reste.
Au Niger, le passage en vue du nombre de députés de 113 à 171 n'est pas du goût de tout le monde.
C'est une situation extrêmement grave pour notre pays. Quand vous voyez le pays le plus pauvre au monde qui vit exclusivement de l'aide extérieure.
En Afrique du Sud, l'ANC a gelé une enquête parlementaire concernant des allégations de corruption concernant le président Jacob Zuma. Le président kenyan a promulgué une loi légalisant la polygamie dans le pays. En Libye, l'élection du premier ministre a été interrompue par l'irruption d'hommes armés au sein du Parlement. Et n'oubliez pas, en fin d'émission, nos pages sport et musique. Mais d'abord, le journal.
Les parents des lycéennes enlevées par les islamistes de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria ont manifesté hier à Abuja, la capitale, pour dénoncer l'échec des autorités à leur venir en aide. Entre 100 et 200 jeunes filles, âgées de 12 à 17 ans, ont été enlevées à Chibok, dans l'état de Borno, le soir du 14 avril dernier. Les familles sont d'autant plus angoissées que, selon certaines informations qui circulent à Chibok, les victimes pourraient avoir été emmenées dans les pays frontaliers pour y être mariées de force. Selon des sources sécuritaires, les jeunes filles pourraient être utilisés comme esclaves sexuels ou comme domestiques.
Des centaines de ressortissants de la RDC chassés du Congo-Brazzaville voisin ont continué d'affluer jusqu'à hier à Kinshasa, Lionel Gaïma.
Au Beach Ngobila, le port de Kinshasa, la barge assurant la traversée du fleuve Congo a déversé hier plusieurs centaines de passagers. Ils débarquent avec leurs bagages et baluchons ou le peu qui les reste. Ensuite, ils sont conduits en bus affrété par les autorités locales pour une identification et une assistance offerte à la maison de la commune de Kinshasa. Certains ont été expulsés de Brazzaville et d'autres ont décidé de partir d'eux-mêmes. Ce lundi, le gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta, a indiqué que l'on approchait la barre de 40 000 expulsions. Brazzaville a lancé le 3 avril l'opération policière dite Mbataya à Bakolo, la gifle des aînés en Lingala, contre les étrangers en situation irrégulière. La raison officielle serait une recrudescence de la délinquance violente. Les Voix des Sans-Voix, l'une des principales ONG de défense des droits de l'homme à Kinshasa, a dénoncé la façon barbare dont les ressortissants de la RDC ont été expulsés, parlant de traitements cruels, inhumains ou dégradants. La police de Brazza reconnaît qu'il y a eu des bavures et 17 de ses membres ont été radiés pour leur agissement. Pour le moment, Kinshasa joue la carte de l'apaisement.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté la fin de l'embargo sur les diamants ivoiriens. Cette mesure frappait depuis 2005 la commercialisation des diamants bruts de Côte d'Ivoire. Ce pays a depuis adhéré au processus de Kimberley qui régule le commerce des diamants. Réaction du représentant de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies, Youssoufou Bamba.
Ça traduit la reconnaissance des efforts faits par la Côte d'Ivoire en vue de normaliser la vie dans tous les secteurs d'activité, notamment en ce qui concerne la filière diamantifière. On ne pouvait pas exporter le diamant ivoirien. Donc tout ce qui était fait, c'était, si vous voulez, un peu intramuros. Donc ça suppose beaucoup d'illégalité, tout ça. Tout le monde a reconnu que la Côte d'Ivoire satisfait aux exigences minimales dans le cadre de la certification. Donc il fallait que l'embargo soit levé pour que la Côte d'Ivoire puisse exporter.
Et puis les Nations Unies, dans une résolution adoptée à l'unanimité, ont aussi assoupli l'embargo sur les armes frappant la Côte d'Ivoire. Les armes lourdes restent strictement contrôlées, mais des armes légères pourront désormais être livrées à la police et à la gendarmerie sous réserve de notification préalable à l'ONU.
En Libye, l'élection du Premier ministre a été interrompue par l'irruption d'hommes armés au sein du Parlement. Ces derniers ont tiré des coups de feu, forçant les législateurs à suspendre le vote, Jean-Roger Billon.
Plusieurs personnes ont été blessées dans la fusillade selon l'agence de presse Reuters. Un porte-parole du Parlement a indiqué que les assaillants agissaient pour le compte de l'un des candidats malheureux au poste de Premier ministre. L'élection visait à remplacer le Premier ministre Abdullah Al-Thani, qui a démissionné au début du mois. Le scrutin a été interrompu au second tour qui opposait Ahmed Matik, un homme d'affaires, et Omar Halassi, un professeur de sciences politiques. Le gouvernement libyen fait face à de nombreux défis liés à la sécurité depuis le renversement de Muammar Kadhafi en 2011. 2011. Les milices qui ont contribué à évincer le leader de longue date continuent de régner sur de grandes parties du pays, y compris dans l'est de la Libye où ils ont pris le contrôle des principaux ports.
La condamnation à mort de 683 frères musulmans en Égypte a été mal accueillie à Washington. Un influent sénateur américain a décidé de bloquer l'aide militaire à l'Égypte, Darina Naidoo.
Il s'agit du démocrate Patrick Leahy qui préside le sous-comité sénatorial de supervision de l'aide étrangère. Il a déclaré hier qu'il n'est pas prêt à donner son feu vert pour l'aide à l'Égypte tant que les États-Unis ne voient pas une preuve convaincante que le gouvernement égyptien est déterminé à faire respecter le droit. Leahy s'est dit très gêné par ce qui est, à ses yeux, un mépris des droits de l'homme et un abus flagrant de justice de la part du gouvernement égyptien. L'administration Obama a décidé de lever une interdiction de l'aide militaire imposée à l'Égypte après les violences qui ont suivi le renversement du président Morsi en juillet dernier. Les États-Unis envisagent de fournir à l'Égypte 650 millions de dollars d'aide militaire et 10 hélicoptères Apache.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, au moins 15 personnes ont été tuées hier dans deux attentats à la bombe. Ces incidents interviennent à la veille des premières élections générales depuis le retrait des troupes américaines en 2011. Les attentats ont eu lieu sur un marché de la ville d'Al-Saadiyah, à environ 140 km au nord-est de Bagdad. Lundi, des insurgés avaient ciblé des bureaux de vote et des meetings politiques, tuant au moins 50 personnes dans la capitale irakienne et dans les zones au nord de la ville. Ces attentats n'ont pas été revendiqués.
En Syrie, 36 personnes ont trouvé la mort hier dans un attentat à la voiture piégée à Homs. L'attaque s'est produite dans un quartier essentiellement alaouite de cette ville assiégée. Par ailleurs, dans la capitale, Damas, des obus de mortier ont tué au moins 14 personnes et fait plus de 80 blessés. Des élèves d'une école religieuse compteraient parmi les victimes.
Des centaines de séparatistes pro-russes ont envahi hier plusieurs bâtiments du gouvernement ukrainien près de la frontière russe. Ils ont saisi le bureau du procureur à Luhansk et attaqué un poste de police à Henri Francisc.
Selon les autorités locales, la police n'a pas offert de résistance. Et des témoins affirment que des hommes armés ont hissé un drapeau séparatiste sur le siège du gouvernement à Lugansk, une ville de 450 000 habitants. Cette conquête donne aux insurgés pro-russes le contrôle d'une deuxième capitale de province de l'Est. Les séparatistes avaient déjà pris le contrôle de Donetsk lundi et fixé au 11 mai un référendum pour la sécession. Un vote similaire le mois dernier avait conduit à l'annexion par la Russie de la péninsule de Crimée. Ces dernières occupations interviennent alors que les négociations pour obtenir la libération de 7 observateurs européens ont repris. Ces derniers ont été pris en otage la semaine dernière dans la ville voisine de Sloviansk.
Enfin, les États-Unis suivent de près les exercices de tir d'artillerie de la Corée du Nord, près de sa frontière contestée avec la Corée du Sud. La porte-parole du département d'État, Jen Psaki, a indiqué que les États-Unis continuent d'exhorter Pyongyang à faire preuve de retenue et à s'abstenir de toute action soulevant des tensions. Le Pentagone affirme que Pyongyang devrait plutôt se préoccuper de nourrir sa population pauvre. Cette réaction de Washington fait suite à des tirs hier de 50 coups d'artillerie par la Corée du Nord. Aucun de ces tirs n'a atteint le territoire sud-coréen.
Voilà, c'est tout pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique au micro. Bagassikoura, on commence tout de suite par le Niger où le gouvernement a adopté un projet de loi pour faire passer le nombre de députés de 113 à 171. L'objectif, c'est bien sûr de répondre à une augmentation de population par rapport à 2002. Mais là-bas, la mesure n'est pas du goût de tout le monde, particulièrement au sein de la société civile. Idriss Fall a joint à Niamey Ali Idrissa du Rotab. C'est le réseau des organisations de la transparence et l'analyse budgétaire.
C'est une situation extrêmement grave pour notre pays. Quand vous voyez le pays le plus pauvre au monde, qui vit exclusivement de l'aide extérieure et des emprunts, qui se permet d'augmenter le nombre de députés. Déjà, nous trouvons ce nombre de 113 députés très élevés par rapport au travail qu'ils sont en train de faire, ne font même pas le travail pour lequel ils sont élus, et qu'on puisse vouloir aujourd'hui augmenter le nombre de députés, nous trouvions ça très très grave et inconscient. Pour nous, c'est un complot de la classe politique nigérienne contre le peuple nigérien.
Mais c'est dans quel but? Que dit le gouvernement comme argument pour vouloir augmenter le nombre de députés?
Le gouvernement veut augmenter le nombre de députés par rapport à la population, soi-disant. qui a augmenté de 1 million ou bien à 2 millions. Nous ne pouvions pas comprendre qu'on puisse augmenter 58 députés parce que l'effectif des populations nigériennes a augmenté de près d'un million. C'est une aberration pour nous. Cet argument du gouvernement ne tient pas parce que ces 113 députés actuels ne font même pas le travail pour lequel ils sont élus. Il serait même important de diminuer sur le nombre de députés pour pouvoir faire des économies sur les charges de fonctionnement de cette institution, investir dans l'éducation, dans la santé et prétendre pouvoir aller au développement de notre pays.
Est-ce que même les députés actuels, on les entend dans les négociations entre le gouvernement et Areva, par exemple? Est-ce qu'ils représentent vraiment les intérêts des populations?
C'est ce que nous trouvons très grave. Les députés actuels ne s'occupent même pas des débats économiques, des débats qui ont des enjeux pour notre pays, notamment les renégociations Niger-Areva, qui ne discutent même pas en une journée et qui se permettent aujourd'hui la situation actuelle par rapport au renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale, qu'ils puissent bloquer cette question pendant plus d'une semaine par rapport à des postes. Nous trouvons ça très très grave et nous dénonçons le comportement de ces députés qui ne sont plus les représentants du peuple nigérien, qui ne représentent que eux et leurs seuls intérêts.
Voilà, c'était Ali Idrissa, joint à Niamey par Idriss Fall.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
En Centrafrique, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a condamné l'attaque de lundi contre un convoi de musulmans qui fouillait les violences à Bangui. Un groupe armé a jeté des grenades sur ce convoi de 1300 musulmans près de Dekoa au nord, faisant 2 morts et 6 blessés. Idriss Fall a recueilli la réaction de Kwasi Lazare Etienne, il est le représentant du ACR à Bangui.
C'est assez triste que cette attaque, malheureusement, on ne peut pas ratisser toute la brousse ou la broussaille le long de ce long chemin qui mène de Bangui jusqu'à Kabo et Moyen Sido. Naturellement, ceux qui ont attaqué ont trouvé donc des points stratégiques où ils ont lancé des grenades et après se sont évanouis dans la nature, environ à Dissikou, à 50 km de Kazabandoro. On déplore 2 morts et 6 blessés. Le convoi a pu rallier Kazabandoro où il a passé la nuit. Donc les blessés ont reçu les premiers soins et aussi ont pu manger, se reposer. L'escorte a repris le chemin en espérant que le groupe arrive à Kabo et à Moyen Sido.
Ce n'est pas la première fois qu'on attaque des musulmans qui veulent fuir l'enfer de Bangui.
La situation est assez délétère. La tension est permanente. Et c'est pour cela aussi que, pour parer à toute éventualité, nous avons pris les mesures, avons bénéficié donc de la coopération des forces internationales, à savoir la MISCA pour ce cas bien précis, mais aussi habituellement aussi Sangaris nous appuie. Mais comme je vous disais, le convoi est assez long et on ne pourrait pas avoir des soldats comme des piquets tout le long du chemin. L'escorte est organisée en se disant quand même que les risques ne sont pas à écarter à 100%. Autrement dit, on n'aurait pas prévu donc l'escorte.
Les musulmans sont coincés dans des quartiers de Bangui et le gouvernement ne souhaite pas qu'ils soient relocalisés ailleurs.
Le gouvernement joue sur un terrain qui n'est pas forcément le nôtre, non humanitaire. Le gouvernement a une position que nous comprenons aussi. Mais nous avons le mandat international de protéger les personnes en danger. Et c'est bien le cas de ces musulmans qui sont dans les poches, qui sont coincés. Et cela dure depuis des semaines et des mois. Et plus d'une fois, nous avons approché les autorités qui elles-mêmes ont compris la nécessité de protéger ces gens pour comprendre aussi le gouvernement. Bon, c'est une question de moyens. Aujourd'hui, le gouvernement bataille sur plusieurs fronts. Il était de notre devoir, nous humanitaires, de prendre nos responsabilités. Et je pense qu'aujourd'hui, une vie de sauver vaut toute autre considération.
Voilà, c'était Kwasi Lazare Etienne du ACR à Bangui.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
En Afrique du Sud, l'ANC a gelé une enquête parlementaire concernant des allégations de corruption contre le président Jacob Zuma. L'opposition dénonce ce qui, selon elle, est une mauvaise politique à moins de 10 jours des élections nationales. Les précisions de Timothée Donangmaï.
À l'origine de cette affaire, l'utilisation par le président Zuma de 23 millions de dollars de fonds publics pour rénover sa résidence privée. Il y a 6 semaines, l'agence anticorruption sud-africaine avait rendu le rapport Nkanda, un document de 400 pages détaillant les dépenses effectuées par M. Zuma. Depuis, la commission d'enquête du Parlement s'est réunie 2 fois seulement et a décidé de mettre un terme à ses activités. raison officielle, pas assez de temps pour examiner l'affaire avant les élections du 7 mai. Cyril Ramaphosa, l'adjoint de Zuma à la tête de l'ANC, rejette les accusations de manœuvre politique.
That matter of the Nkandla report is going to be handled clearly.
La question du rapport Nkandla va être clairement prise en main par la prochaine législature et sous plusieurs aspects, il s'agit là d'une décision très pratique. Car en ce moment, il n'aurait pratiquement pas été possible de mener à bien le processus d'examiner le rapport parce que c'est un volumineux rapport. Les adversaires de l'ANC ne cessent de critiquer le bilan de ce parti en matière de lutte contre le chômage, la corruption et concernant la fourniture des services publics aux Sud-Africains. La formation politique du défunt Mandela peut encore compter sur ses fidèles électeurs, mais de nombreux analystes prédisent que sa marge de victoire sera des plus réduites le 7 mai. Syndicaliste devenu millionnaire, Cyril Ramaphosa, devenu numéro 2 de l'ANC au congrès de 2012, est en bonne position pour la présidence au cas où le président Zuma achèverait un probable second mandat en 2019 ou s'il décidait d'abréger ce mandat. Ramaphosa, lui, minimise ses ambitions.
My great ambition is to be president of the golf club where I play golf.
Ma grande ambition est d'être président du club de golf où je joue. Je voudrais en être le président et je voudrais aussi être le président de mon club de pêche. C'est là la somme totale de mes ambitions, a-t-il dit sur un ton badin.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, la politique américaine pour l'Afrique subsaharienne, avec en toile de fond la tournée du secrétaire d'État John Kerry en Afrique cette semaine. Vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Voilà, cette loi qui fait des vagues au Kenya. Là-bas, le président a promulgué une loi légalisant la polygamie. Le 22 mars dernier, les femmes parlementaires avaient même claqué la porte lors du vote. La nouvelle loi donne aux femmes le droit d'épouser autant de femmes qu'ils le souhaitent sans obtenir le consentement de leur épouse. Jusque-là, la loi sur le mariage permettait à la femme de s'opposer à la décision de son mari. La loi actuelle n'autorise en revanche les femmes à n'épouser qu'un seul homme, Nathalie Barge.
Le Conseil national des églises du Kenya s'est opposé à cette loi et la Fédération nationale des avocates, la FIDA Kenya, va déposer un recours. Pour une réaction, j'ai joint une ancienne parlementaire burundaise, Catherine Mobobori, qui estime que cette mesure est une menace pour toute la région qui tente d'harmoniser ses lois.
Vraiment, je suis désolée d'apprendre cette mauvaise nouvelle qui nous fait reculer par rapport aux avancées en matière d'égalité de genre. Parce que moi, la question qui me vient à l'esprit est celle-ci. Si l'homme est autorisé à épouser plus d'une femme, c'est-à-dire que la femme est aussi autorisée à avoir plus d'un homme. Et dans ce cas, je me demande ce que serait le sort de la société en général. Et je me demande ce qui va aussi en advenir au niveau de la société kenyane. Je ne peux exprimer vraiment ma solidarité avec les femmes kenyanes et leur dire de ne pas se décourager, de continuer la lutte, parce que généralement, ce genre de combat vraiment est un combat de longue haleine. Ce que je trouve dangereux, c'est que souvent ce genre de décision peut faire tache d'huile au niveau de la sous-région. Jusqu'à présent, on avait observé cela dans le sens positif en ce qui concerne l'harmonisation des lois. Ici, je parle surtout au niveau de l'East African Community. Je trouve vraiment cela très, très désolant. Pour moi, ça interpelle les femmes de la sous-région, les femmes africaines, à être plus solidaires dans la lutte de leurs droits.
Catherine Mobobori est ex-parlementaire burundaise. Réaction d'une autre femme à cette légalisation de la polygamie au Kenya, celle de Lucie Beasenda, ancienne gouverneure tchadienne.
Je crois que cette loi n'a pas trop sens et c'est inutile. Il est préférable de laisser aux hommes le libre accès de faire ce qu'ils veulent, mais pas en faire une loi pour tout le pays. Et moi, en tant que chrétienne, je ne suis pas pour la polygamie.
Lucie Beasenda est inspectrice générale adjointe de l'administration territoriale au Tchad.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui et c'est l'heure des sports et j'accueille Timothée Donangmaye. Bonjour Timothée.
Bonjour Bagassi.
En football, élimination en Ligue des champions du tenant en titre.
Le Real de Madrid, qui avait un tout petit but d'avance, a laminé le Bayern à Munich en demi-finale retour. Score 3-0 à la mi-temps avec un doublé de Ramos aux 16e et 20e minutes, suivi d'un but de Ronaldo à la 34e minute. En seconde période, des Bavarois impuissants ont vu Ronaldo porter la moisson des Madrilènes à 4 buts contre 0. À suivre ce soir, l'autre demi-finale avec l'autre représentant espagnol, l'Atlético Madrid contre Chelsea.
Autre Ligue des champions, cette fois-ci sur le continent africain.
Le tirage au sort a eu lieu au Caire pour la phase de poule. Les Congolais se retrouvent dans le même groupe A. L'épouvantail Mazembe face à l'AS Vita Club, sans oublier le Zamalek du Caire et El Hilal du Soudan. Dans le groupe B, même scénario qui verra s'affronter les deux derniers représentants tunisiens, à savoir Espérance Tunis et le CS Faxien, et les Algériens de Sétif qui joueront contre les Libyens d'Alali Benghazi.
Au Gabon, c'est ce mercredi que le corps de Sylvain Azougoui sera rapatrié au Bénin.
Il y a 10 jours, le gardien de but de l'AC Bongoville a trouvé la mort sur le terrain. Le Béninois avait été touché à la tête à la suite d'un choc avec un attaquant du CMS. Il sera transféré ce mercredi au Bénin, comme l'explique Pierre-Alain Mungengui, président de la Fédération Gabonaise de football.
Le club, la Ligue nationale et la Fédération Gabonaise de football avons mis en place une organisation pour ses obsèques. Le corps sortira donc mercredi à Bongoville, avec veillée à Bongoville, puis sera transféré sur Cotonou au Bénin via Libreville, où une manifestation sera organisée à l'aéroport de Libreville pour quelques heures. La famille à Cotonou est présente actuellement au Gabon, donc nous avons fait venir deux membres de la famille qui assistent aux formalités de transfert du corps. Nous nous associons à la famille tout naturellement pour déplorer ce qui est arrivé.
Pierre-Alain Mungengui, président de la Fédération Gabonaise de football.
Ici, aux États-Unis, la sentence de la NBA est tombée hier contre Donald Sterling, le propriétaire des Clippers de Los Angeles. Il est banni à vie de la NBA.
Une décision qui fait suite à la diffusion de ses commentaires racistes dans une conversation téléphonique avec sa maîtresse. Le commissaire de la NBA, Adam Silver, l'a donc banni à vie de toute activité liée au club des Clippers ou au basketball professionnel nord-américain. En outre, Donald Sterling devra vendre son club, mais il faudra qu'au moins 3/4 des propriétaires votent en faveur d'une telle vente. Donald Sterling devra aussi s'acquitter d'une amende de 2,5 millions de dollars.
Quelques réactions à cette sentence?
L'ancien basketteur Kevin Johnson, maire de San Antonio et représentant des joueurs dans cette affaire, s'est félicité de la décision du commissaire Silver, mais a dit que beaucoup reste encore à faire contre le racisme. Pendant ce temps, les playoffs de la NBA se poursuivent.
Justement, hier tard dans la soirée, les Clippers étaient aux prises avec les Golden Gate Warriors. Notons que c'était la fête hier ici à Washington suite à la qualification des Wizards face aux Chicago Bulls. Les Wizards n'avaient plus franchi ce cap depuis 2005. Score très serré pour Memphis, 99-100 contre Oklahoma City. Après les sports, la musique avec Roger Muntu. Bonjour Roger.
Salut Bagassi. Que les fans de Miley Cyrus s'y rassurent. La chanteuse va beaucoup mieux. Miley avait été hospitalisée en urgence le 15 avril, annulant, dans la foulée, un concert à Kansas City. Excès de boulot, déprimée suite à la mort de son chien, rien de tout ça. Écoutons d'abord « Get It Right ».
Alors, il faut dire que Miley Cyrus aurait fait une grave réaction allergique à un antibiotique.
Oui, Bagassi, mais bien sûr, Twitter s'est enflammé et toutes les rumeurs possibles et inimaginables ont vu le jour. La plus relayée, Miley serait enceinte. Afin de faire taire les mauvaises langues, le manager de la pop star a décidé de mettre les choses au clair. Dans un communiqué, il dit « Miley souffrait d'une infection des sinus pendant sa tournée. On lui a prescrit l'antibiotique qui lui a causé une allergie sévère. »
Miley Cyrus, Get It Right. Merci Roger.
A plus Bagassi, bonne journée.
Roger Muntu que vous suivez dans RM Show chaque jour à partir de 20h, temps universel. Don't you wanna feel the spark?
Let your muscles and go through the roof.
Oh, rest it,
'cause it's a criminal.
I've laid in this bed all night long.
Miley Cyrus sur la voix de l'Amérique dans le monde. Aujourd'hui, Anne Albesson est de retour pour le rappel des titres.
Les parents de la centaine de lycéennes enlevées par les islamistes de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria ont manifesté hier à Abuja, la capitale, pour dénoncer l'échec des autorités à leur venir en aide. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté la fin de l'embargo sur les diamants ivoiriens. Et dans une résolution adoptée à l'unanimité, l'ONU a aussi assoupli l'embargo sur les armes. En Libye, l'élection du Premier ministre a été interrompue par l'irruption d'hommes armés au sein du Parlement. Ces derniers ont tiré des coups de feu, forçant les législateurs à suspendre le vote. Enfin, les États-Unis suivent de près les exercices de tirs d'artillerie de la Corée du Nord près de sa frontière contestée avec la Corée du Sud. La porte-parole du département d'État américain a indiqué que les États-Unis continuent d'exhorter Pyongyang à faire preuve de retenue et à s'abstenir de toute action soulevant des tensions.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de nous avoir suivis. Merci à Anne Albesson qui a aussi assuré la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction de La Voix de l'Amérique. C'était Bagassi pour au micro. Je vous souhaite une excellente journée.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, La Voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.